faire de vous des vases d'honneur, des chrétiens de qualité, des hommes et des femmes épanouis dans tous les domaines de votre vie. Voici l'un des buts que la mission évangélique Vases d'honneur vise. À cet effet, des messages d'édification vous sont proposés afin de vous aider à évoluer dans votre vie et dans votre marche avec Jésus. Notre prière, que la parole de Dieu, source de vie, vous transforme et vous apporte la solution à votre problème.
Dis avec moi l'amour, l'amour divin. Alléluia. Depuis l'année dernière jusqu'à maintenant, nous travaillons une série de vertus. Et moi personnellement, et selon les témoignages que je reçois, je crois aussi dans vos vies, ces enseignements sur le caractère, sur les vertus, nous font du bien, n'est-ce pas? Amen. Et nous donnent de nous améliorer, de progresser dans nos attitudes, dans notre comportement, dans notre manière d'être, dans notre manière de faire. Amen. La Bible aussi présente les vertus comme étant le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit en nous doit donner ses fruits. Alléluia. Et la Bible dit que si nous portons du fruit, Dieu nous émonde afin que nous puissions en porter davantage, selon ce qu'il dit en Jean chapitre 15. Dieu travaille pour que nous ayons davantage, nous puissions porter davantage de fruits. Et la vertu que nous sommes en train d'étudier, c'est l'amour. C'est la plus grande des vertus. C'est le plus grand des fruits. Amen. C'est le plus grand des fruits. C'est le plus grand des commandements, selon ce qu'a dit Jésus. Le plus grand de tous les commandements. Et nous avons expliqué pourquoi c'est le plus important et le plus grand, selon ce que Jésus-Christ a dit. Nous avons appris que nous ne sommes pas capables d'appliquer la volonté de Dieu sans amour. Ce n'est pas possible. Même si tu poses des actions, tu fais des choses qui ressemblent à la volonté de Dieu, tu ne pourras pas les faire longtemps si tu n'aimes pas. Si tu obéis à la vie de sainteté, de sanctification, il te sera difficile de garder une vie de sanctification sans péché longtemps s'il n'y a pas d'amour en toi. Si, et quand je dis il n'y a pas d'amour, ça veut dire tu n'aimes pas ou tu n'aimes pas comme il se faut Dieu ou tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même comme il se faut. Alléluia. Alléluia. Et nous avons expliqué donc beaucoup de choses en ce qui concerne l'amour. Nous avons dit ceci que l'amour dont parle le Seigneur n'est pas d'abord un sentiment. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on ressent. Généralement, nous les hommes, lorsque nous disons que nous aimons quelqu'un, c'est nous déterminons cela par rapport à des sensations intérieures. Une affection dans l'âme, quand on voit la personne, vraiment on n'est pas indifférent devant cette personne. C'est ce que nous appelons amour. Mais ce n'est pas ce que la Bible appelle amour réellement. Alléluia. Voilà, ce n'est pas une sensation, ce n'est pas un sentiment. Amen. Ce dont la Bible parle, lorsque la Bible utilise le mot amour, c'est le mot hébreu, le mot grec, pardon, agapé. Agapé, qui lui est un commandement. Amen. Alors donc, comment l'amour se manifeste? Je dis, il y a deux parties. Il y a l'amour de Dieu, il y a l'amour du prochain. Pour le moment, nous sommes en train de parler de aimer Dieu. Aimer Dieu. Amen. Une personne qui aime Dieu se voit dans ses actions. Ça se voit dans ce qu'elle fait. Mais l'amour de Dieu ne commence pas par les actions. Amen. Si tu aimes Dieu, on va le voir dans tes gestes, dans ton zèle. Tu as du zèle pour le Seigneur. Donc lorsqu'on voit le zèle, on peut imaginer qu'une personne peut aimer Dieu. Mais tous ceux qui sont zélés n'aiment pas forcément Dieu. Celui qui aime Dieu, il a du zèle. Mais tous ceux qui ont du zèle n'aiment pas forcément Dieu. La Bible parle du zèle amer. Amen. Voilà. Moi, au début de ma conversion, j'étais zélé. J'avais du zèle, mais sans amour. Ça veut dire, je n'aimais faire les choses de Dieu, mais je n'aimais pas trop mon prochain. Comme moi-même. Et progressivement, Dieu va ouvrir mes yeux pour me faire comprendre ce que c'est que l'amour. Et ma vie va changer. Alléluia. Donc, physiquement, une personne qui aime Dieu se voit, ça se voit par son zèle. Dans l'être intérieur, quand tu aimes Dieu, ça va se sentir par effectivement des sentiments, des émotions. C'est-à-dire quand on te parle de Dieu, tu sens que ton âme bouge. Tu aimes, hein, quand on dit, j'aime la présence de l'Éternel, j'aime être dans sa maison. C'est une sensation. Mais l'amour de Dieu dont nous parlons ne commence pas par la sensation ni par le zèle physique. pour pouvoir avoir toujours de la sensation envers Dieu, pour pouvoir être toujours zélé pour Dieu dans ses actes, il faut commencer par aimer selon agapé ou bien dans l'esprit. Et l'amour dans l'esprit, c'est-à-dire dans vos pensées, amen, comme je dis, ce n'est pas des sentiments, ce n'est pas une sensation, c'est un ensemble de décisions, ou c'est un ensemble de décisions ou de choix que vous faites dans la vie. Si vous faites de bons choix dans votre vie sans ressentir quoi que ce soit, si vous faites les choix dont je parle, et il y en a 5 en tout, vous allez voir que vous allez commencer à sentir, à avoir des réels sentiments pour Dieu, et ces sentiments-là ne diminueront pas. Ils vont aller même de manière croissante. Amen. Si vous prenez cette décision, donc les 5 décisions dont je parle, vous allez voir que vous allez commencer à manifester un zèle pour Dieu qui ne diminue jamais. Mais si vous ne prenez pas les 5 décisions, votre zèle pour Dieu sera temporaire. Il peut durer 5 ans, mais il va s'épuiser. À un moment donné, vous allez être fatigué. Votre vie de prière va baisser à un moment donné. Vous pouvez avoir une vie de prière de 10 heures de prière par jour, mais si en dessous de vos 10 heures de prière, il n'y a pas ces 5 choix-là, ces 5 décisions dont je parle, votre vie de prière va finir par baisser. Amen. Si vous ne prenez pas ces 5 décisions, si vous ne faites pas ces 5 choix, vous allez voir que même votre amour pour les autres ne sera pas constant ou ne va pas aller en croissant. La façon dont vous êtes patient avec les autres, vous pardonnez, la bonté. Amen. Si vous ne prenez pas ces 5 décisions, votre bonté envers autrui va diminuer avec le temps. Parce que notre monde est rempli de tellement de problèmes, de méchanceté, de tromperie, qu'il n'est pas toujours évident d'être toujours bon. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, pour qu'un sentiment, pour qu'une action envers Dieu demeure, reste dans le temps, il faut que j'ai un amour qui ne finit pas. Le Seigneur dit dans le livre d'Apocalypse, il dit à l'église, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Et il parle du zèle. Il dit, tu avais du zèle, mais maintenant tu as perdu ton premier amour. Amen. Beaucoup de chrétiens diminuent, baissent dans leur communion, dans leur action pour Dieu, parce que profondément, ils n'ont pas travaillé les 5 décisions. Donc, ces 5 décisions à prendre, sans ressentir quoi que ce soit. Rien ne va te pousser à les faire. Il n'y a pas le feu ne va pas tomber sur toi pour dire, agis ainsi. Non. Ce sont des décisions, ce sont des choix. C'est pourquoi j'ai utilisé le mot choix. Ce sont des décisions, ça veut dire que ce sont des actions délibérées. Je décide de le faire. Que j'en ai envie, que je n'en ai pas envie, je le fais. C'est comme ça que je fais les choses. Alléluia. C'est un peu comme la décision d'être quelqu'un de poli. Quelqu'un qui a décidé d'être poli, même si vous êtes agressif, même si vous vous comportez mal, elle sera toujours polie. Elle va vous répondre avec courtoisie, même si elle n'est pas d'accord avec vous, mais elle ne va jamais... Elle a décidé de parler poliment. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui a pris la décision de lui, par exemple, d'être toujours bien vêtu, vous allez voir, à force de ses essais, il est tout le temps, c'est comme ça, c'est un choix de vie. Et il y a des choix comme ça qui déterminent votre futur. En ce qui concerne l'amour de Dieu, il y a 5 choix, 5 attitudes. De la même manière que vous décidez votre façon de vous habiller, vous devez aussi prendre les 5 décisions. Et quand vous allez les prendre, quand vous allez agir dans ce sens-là, le sentiment pour Dieu va naître et le sentiment pour le prochain va naître. Amen. Le sentiment pour Dieu, les actions pour Dieu. Et ce qui va se produire, c'est que ça va commencer même à influencer votre relation envers les autres. Amen. Deuxième chose que je dis aujourd'hui en ce qui concerne l'amour, pour introduire le deuxième et le troisième point que nous traiterons aujourd'hui. Amen. L'amour est notre connexion avec Dieu. C'est le chemin par lequel Dieu passe pour nous atteindre. Dieu est amour. Le chemin qu'il prend pour t'atteindre, c'est un chemin d'amour. C'est-à-dire, plus tu aimes, plus tu donnes un boulevard à Dieu pour qu'il vienne vers toi. Moins tu aimes, plus la route est resserrée. Donc, lorsque tu pries et que tu demandes une chose à Dieu et que Dieu t'exauce, entre le temps de l'exaucement et le temps de la réalisation, il y a un chemin spirituel que les anges ou que Dieu lui-même prend pour t'atteindre. Ce chemin-là, c'est l'amour qui détermine l'état de la route. Si tu ne parles pas à ta sœur Gasparette, la route est encore resserrée. Il y a des trous sur le chemin. Les voies sont cassées. Amen. Donc, entre le moment où tu as prié l'Éternel, « Seigneur, sauve-moi, je suis dans la détresse », et tu as eu la foi c'est quoi? La foi c'est pas le chemin. La foi c'est le fait que tu crois en Dieu, tu sais que Dieu est capable d'intervenir. La foi est toujours exaucée. Mais quand Dieu t'a exaucé, il arrive à toi. C'est pourquoi il dit, quand vous priez, dites par exemple que ta volonté qui est faite au ciel se fasse sur la terre. Donc ça veut dire que c'est toi qui quitter le ciel pour arriver sur la terre. Et le chemin que la volonté de Dieu prend pour atteindre la terre et pour atteindre ta vie, c'est ton amour. Alléluia. Alléluia. L'amour est donc notre connexion. C'est la prise. C'est par l'amour de Dieu qu'on est connecté à Dieu. Un manguier est appelé à donner des mangues. Mais pour que le manguier donne ses mangues, il faut qu'il soit enraciné dans le sol. Alléluia. Si tu détaches le manguier, si il n'est pas planté, il ne pourra jamais donner de mangues. L'homme est appelé à produire certains fruits. Mais pour qu'il puisse les produire, il faut que lui-même, il soit branché, il soit planté dans son Créateur. Le bonheur ne se trouve pas dans l'homme naturellement, en l'homme. Le bonheur se trouve en Dieu. C'est parce que tu es branché à Dieu que le bonheur quitte Dieu et entre en toi. Alléluia. Si tu es débranché de Dieu, le bonheur qui est en Dieu ne t'atteint pas. Dans ta vie, tu vas avoir un peu de bonheur, mais le bonheur qui est en toi, c'est le reste. C'est un reste de bonheur. Un peu comme lorsque tu déracines un manguier, il ne meurt pas en même temps. Il a encore la sève qui donne la vie en lui. Et même un arbre qui est déraciné, tant qu'il y a la sève, il continue à donner des feuilles. Mais comme la sève n'est pas alimentée, elle finit par disparaître. Et c'est à ce moment-là que l'arbre meurt et les feuilles meurent. Donc les hommes ont un semblant de vie, de joie, mais ce n'est que le résidu de ce que Dieu avait déposé en l'homme. Amen. La vie vient de Dieu. C'est la raison, quand vous lisez le livre de la Genèse, il est dit que Dieu a réduit l'espérance de vie des hommes lorsque les hommes ont commencé à être violents, méchants. La Bible dit sur la terre, les hommes ont commencé à être violents, c'est-à-dire à ne plus aimer. Plus la haine est venue dans le monde, plus l'espérance de vie s'est mise à baisser. Les hommes étaient capables de vivre jusqu'à 900 ans, un peu même plus. Mais à un moment donné, leur vie s'est arrêtée à 120 ans, maximum pour les hommes, à cause de la haine. Satan sait que l'homme est né dans l'amour de Dieu. Lorsqu'un homme n'aime plus son prochain, il est déconnecté de Dieu. Et Dieu a des problèmes pour agir dans sa vie. Dieu souhaite agir, mais il y a des freins. Il veut agir, mais il y a le palabre avec Gasparette. Tu as raison de ne pas parler à Gasparette, parce qu'hier elle t'a fait un coup bas. Mais la Bible dit que tu dois pourtant pardonner. Quand Dieu demande de pardonner, ce n'est pas par rapport à elle, c'est par rapport à toi-même. Alléluia. Parce que quand tu te venges, tu es en train de te déraciner de Dieu. Non, Dieu, laisse-moi, j'ai géré ça moi-même. Attends, j'ai enlevé la prise parce que ton électricité là ne me plaît pas. Quand tu te venges, quand tu agis par toi-même, tu te déconnectes de ta source. Amen. Amen. Dis avec moi les cinq choix. Donc le Seigneur nous dit ceci. Voici le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force. Bon, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Ça, c'est la troisième chose que je dis rapidement pour toucher mes points. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Si le Seigneur dit que tu vas aimer l'Éternel ton Dieu de toutes tes forces, ça signifie que on peut aussi aimer l'Éternel Dieu, mais avec la moitié de ses forces. Lorsqu'on dit toutes, on veut dire qu'il y a une quantité. Il y a beaucoup d'hommes sur la terre qui aiment Dieu, mais pas de toute leur force. Ils aiment Dieu avec la dîme de leur force. Comment on dit de donner la dîme? Il dit: Dieu, voilà tout ce que je sais faire de bien sur la terre. Mais pour toi, mon Créateur, voilà, tiens, 10% de mes forces. Si je sais faire des choses, pour Dieu, je vais le faire moins. Ces personnes-là aiment Dieu, mais pas de toute leur force, pas de toute leur pensée. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est le premier point, le premier choix. C'est-à-dire, le cœur nous parle de nos choix intérieurs. Lorsqu'on dit, tu fais quelque chose, on dit, une manière de parler, il le fait avec son cœur. Amen. Je peux faire quelque chose, mais sans mon cœur. Ça veut dire, je ne voulais pas le faire, mais je le fais. La Bible dit d'aimer Dieu de tout son cœur, c'est-à-dire de toute sa volonté. C'est ce que j'ai dit au départ, la décision. La décision, c'est une volonté. Alléluia. Donc, aimer Dieu de tout son cœur, c'est prendre sa volonté et avec sa volonté, décider de servir Dieu. C'est-à-dire, je le sers volontairement. Pas parce que mes parents m'ont dit, pas parce que c'est la mode d'aller à l'église à Abidjan, pas parce que les gens ont décidé quoi que ce soit. J'aime Dieu parce que j'ai décidé. C'est le premier choix pour servir l'Éternel. Pour aimer Dieu, la première décision à prendre, c'est décider de servir Dieu. C'est ce que nous avons fait les deux dimanches précédents. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Ça va? Ok. Donc, aimer Dieu de tout son cœur, c'est cela. Ça veut dire faire le choix délibéré de servir Dieu. Quand je fais des choses pour Dieu, je les choisis. C'est de tout mon cœur. Si je le fais sans le vouloir, ce n'est pas de tout mon cœur. Je le fais par contrainte. Je ne l'ai pas souhaité. Dieu dit non, il faut m'aimer de tout mon cœur. C'est-à-dire, choisis de me servir. C'est la première décision. Faire les choses pour Dieu. Nous l'avons étudié les deux dimanches derniers. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième décision que vous devez prendre. Du deuxième choix à faire qui va développer votre communion avec Dieu. Alléluia. Votre contact avec Dieu. Et qui va permettre à Dieu de vous donner la vie. Ça veut dire, vous avez besoin d'être enraciné dans votre Créateur. L'homme est sorti de Dieu. Pour que vous soyez bien enraciné, pour que vous ouvriez un grand boulevard à Dieu, il faut travailler ce deuxième choix. Le deuxième choix dit ceci, c'est de décider ou de choisir de faire les choses de Dieu avec excellence. Quand je parle de choix, je suis en train de dire, je ne dois pas décider de faire les choses de Dieu parce qu'on m'a contraint. Je dois le faire volontairement, avec excellence. Si je fais quelque chose pour Dieu, il faut que ce soit excellent. Amen. Dis avec moi, excellent. Excellent. Si je fais quelque chose pour Dieu, ce doit être excellent. Si je décide de faire une offrande, ce doit être excellent. Je dois faire de mon mieux. Si je décide de chanter à la chorale, je dois chanter excellemment. Amen. Si je décide, en tout cas, quelle que soit ta décision, tout ce que tu as envie de faire pour Dieu, si je décide d'évangéliser, je dois évangéliser avec excellence. Quel que soit ce que je désire faire, quel que soit ce que je décide de faire, je dois veiller de moi-même à ce que je fais soit excellent. Ça, c'est ma volonté. Si tu fais les choses de Dieu avec excellence, alors tes sentiments pour Dieu vont se développer. Si tu fais les choses de Dieu avec excellence, alors Dieu va t'ouvrir un plus grand boulevard de grâce divine. Amen. Quand tu vas demander, ça va moins tarder pour arriver à toi, parce que Dieu a l'espace. Mais quand ta route est petite, tu dis, ma fille, j'arrive. Tu dis, Seigneur, je suis dans la détresse, ça ne va plus, je meurs, au secours, mon Dieu. Et puis, c'est qui ton entame? Une goutte de grâce. Dieu dit, je t'ai exaucé. Et quand tu prends la goutte, tu dis, mes amis, Dieu a commencé son œuvre. Ce qu'il commence, il achève. Et quand Dieu bénit en abondance. Ce que Dieu commence, ça vient en grand. Dieu, effectivement, ce que Dieu fait, il le fait en grand. Mais toi, ta route est petite. Ta connexion entre Dieu et toi, là, c'est un petit chemin. Dieu dit, ma fille, j'arrive. Moi qui t'ai envoyé une goutte. Pour que l'autre goutte arrive. Et Satan, sachant cela, va mettre devant toi les Gasparettes. Ou les Gaspariens, ou les quelque chose, des gens bizarres. Et chaque fois que tu détestes, tu te mets en colère, tu manques de patience ou autre, tu resserres le chemin, tu coinces Dieu. Tu dis, je vais venir, mais tu as la foi. Tu crois que je vais le faire. Moi aussi, je sais que je vais le faire, mais je n'arrive pas à passer. Amen, amen, amen. Amen. L'amour de Dieu, c'est le chemin entre Dieu et nous, qui transporte la vie qui est en Dieu jusqu'à nous. Aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est faire en sorte qu'il y ait de la vie dans tout ce que nous faisons pour les autres. J'aime Dieu, la vie qui est en Dieu vient en moi. J'aime mon prochain comme moi-même, la vie qui est en moi va chez les autres. Alléluia. 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 Vous pouvez prier, mais si vous priez sans amour, il n'y a pas, votre prière n'atteint pas vraiment le ciel, parce qu'il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas vraiment de chemin. Vous pouvez avoir la foi. C'est pourquoi 1 Corinthiens 13 dit ceci: tout ce que je vais faire, si je n'ai pas l'amour, ce que je fais est vain. Ça veut dire, j'ai la foi, j'ai beaucoup de choses, mais il n'y a pas le chemin en fait. Je ne suis pas connecté à Dieu. Deux personnes sont montées dans la présence de Dieu pour invoquer l'Éternel. Un était orgueilleux. Il dit, je jeûne deux fois par jour. Je ne suis pas comme ce publicain. La Bible dit, le publicain était exaucé. Il était humble. Les deux étaient en train de prier Dieu. Les deux sont venus à l'église. Mais il y a un qui n'a pas été exaucé. Or, celui qui n'a pas été exaucé, il ne priait pas le diable. C'est Dieu qui l'invoquait. Mais lorsque vous regardez ses propos, lorsque vous entendez ses propos, les propos de son cœur, vous sentez qu'il manquait d'amour. Et parce qu'il manquait d'amour, Dieu n'arrivait pas à le toucher. Et Dieu dit, celui-là est parti, il est venu passer 4 heures de temps en vain. Et l'autre qui est resté avec un cœur humble, honnête, simple, a ouvert le chemin pour permettre à Dieu de l'atteindre. Alléluia. Alléluia. Soyez connectés à Dieu par l'amour. Payez le prix de l'amour. Il faut que vous soyez déterminés à maintenir l'amour et à faire grandir votre communion en amour avec Dieu. Et être déterminé, cette détermination-là, c'est la détermination à être excellent dans tout ce que vous faites pour Dieu. Dis avec moi l'excellence. Ça signifie quoi, excellent? Ça signifie ne pas agir avec négligence pour Dieu. Être excellent pour Dieu signifie aussi considérer le détail des choses que je fais pour Dieu. Être excellent pour Dieu, c'est aussi la recherche de la qualité. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Faire quelque chose excellemment, c'est ne rien négliger. Je ne néglige rien. Je regarde le détail et puis j'apporte la qualité. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Est-ce que les choses que tu fais pour Dieu, tu les fais de manière excellente? Quand tu fais ton offrande, est-ce que c'est une offrande excellente? Quand tu viens prier à l'église, est-ce que c'est excellent? Quand tu pries dans ta chambre, quand tu sers l'Éternel, est-ce que tu fais les choses sans négligence? Quand tu viens par exemple décorer, bon, les soeurs décorent bien, vous voyez, c'est bien. Mais même là, bon, c'est un temps, je ne suis pas trop regardant. Mais à un moment donné, quand Dieu a ouvert mes yeux sur la notion de l'excellence, j'ai compris la parole de Dieu qu'en fait, c'était important. Je regardais tout ça. C'est-à-dire, regardez le détail. C'est venu savoir, ah bon, on a plié comme ça ici. Est-ce que si on le pliait mieux, ça l'appelle plus beau? Ça, c'est regarder le détail. Ah, tu vois, on a mis ça ici, mais vous voyez, ça c'est bien droit, c'est bien repassé. Et puis, après, on se dit, mais est-ce que c'est bien même repassé? Pour venir tendre même le pain ou le drap qu'elle va utiliser, la personne prend le temps de le repasser. Faire quelque chose négligemment, c'est venir dire, oh, le plus important, c'est qu'on place. Le pasteur dit, on n'a qu'à décorer, on n'a qu'à décorer. Donc on vient, on place les choses. Et puis, quand on ne considère pas le détail, c'est que généralement, ce qui n'est pas visible pour les hommes, on laisse ça mal fait. Amen. Par exemple, je peux bien décorer l'avant, mais peut-être que ici, quand personne ne voit, je vais laisser la poussière. Voilà, on dit, je cache la poussière. Celui qui recherche l'excellence ne regarde pas ce que les hommes voient. Il se dit, ok, vous voyez ça, mais je ne l'ai pas fait pour vous, je l'ai fait pour Dieu. Même ce qu'on ne voit pas, je vais m'en inquiéter. Parce que Dieu regarde aussi ici. Est-ce que c'est propre pour lui? Amen. Quand vous regardez David, Daniel, Abel, et on va lire son histoire. C'était ça leur particularité. En fait, c'était des croyants comme tous, mais ils avaient décidé de faire les choses de Dieu d'une certaine façon. Et c'est cette décision-là que vous devez prendre dans votre vie. Amen, 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 amen. Amen. Dis avec moi l'excellence. L'excellence. Non, dis-moi ça de manière dynamique. Amen. C'est ce qu'il traduit, tu vas aimer Dieu avec toute ta force, toutes tes pensées. Genèse chapitre 4, verset 3. Genèse 4, 3 dit ceci. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Verset 4. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et il offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Hébreux 11, 4. C'est par la foi. Hébreux chapitre 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est un puissant passage. Amen. Regardez, Hébreux 11, 4 dit que, Hébreux 11, 4 dit, on peut ramener le texte, c'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Genèse 4, qu'on a lu tout à l'heure, décrit deux personnes, Caïn et Abel, les fils d'Adam, qui sont venus adorer Dieu. Caïn est le premier qui décide de faire une offrande. La Bible dit que, Genèse 4, il est dit que Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. On ne dit rien en ce qui concerne la qualité de ses offrandes. On dit, il est venu adorer Dieu, il a pris des produits de la terre, il a donné. Lorsqu'on arrive à Abel, son frère, il est dit, et Abel de son côté présenta les premiers-nés de son troupeau. On va voir tout à l'heure ce que c'est. Et quoi encore? Les meilleurs morceaux. Dans la version Louis II, il est dit, il a donné aussi des graisses. Donc Abel a apporté les premiers-nés et puis les meilleurs morceaux. Apporter les meilleurs morceaux là, c'est une sélection. Ça veut dire qu'il a regardé, il dit, je m'en vais offrir quelque chose à Dieu. Qu'est-ce que j'ai? Et puis il a dit, je vais prendre ce qui est de qualité. Ce n'est pas un songe qu'il a reçu la nuit, qui lui a dit, fais ceci. C'est un choix personnel. Personne n'est venu lui dire, voilà ce qui plaît à Dieu. Il a pensé à Dieu et il a décidé que comme c'est Dieu, je ne peux pas lui donner ce qui n'est pas beau. Parce que moi-même, je sais ce qui est beau. Alléluia. Alléluia. Quand tu fais ton offrande, lorsque tu fais ton offrande, est-ce que tu réfléchis comme ça? Lorsque tu mets l'argent dans la poche pour sortir un billet ou une pièce, à quoi tu penses? Tu peux mettre ta main dans la poche, prendre l'argent, un billet froissé comme ça. Et puis tu mets le plus important, c'est la quantité. Maintenant, on te dit tout de suite, va remettre l'argent, va faire une offrande à ton DG. Est-ce que tu peux arriver dans son bureau, froisser l'argent comme ça? DG, tiens. DG, bonjour. Voilà l'argent. Tu sors de ta poche comme ça, non? Plus tu es en contact avec une personne que tu vas considérer comme importante, tu vas prendre le temps. Tu vas dire, ah, vous c'est mon DG, c'est pas n'importe qui. Cherche-moi les nouveaux billets. Non, tu vas même répéter, tu vas mettre dans une enveloppe. À cause du respect. C'est l'excellence dans ce que tu veux faire. Parce que tu honores la personne. Alléluia. Alléluia. Aimer Dieu, c'est décider de faire les choses avec excellence, sans négligence. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 48, au verset 10. On peut lire ensemble, 1, 2, 3. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Là, c'est fort. Hein? Moi, je dis à Dieu, mais vraiment. Ça veut dire, il y a une malédiction que tu peux attraper en servant Dieu. Tu as décidé de servir Dieu. Et puis, on te maudit. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est-à-dire autant qu'il n'est pas fait. Parce que faire quelque chose avec négligence, ça ressemble à de l'injure. Je vais vous donner un exemple. C'est pourquoi j'ai commencé mes propos en disant aimez Dieu de toute votre force. Maintenant, quand on dit toute votre force, ou bien quand on parle d'excellence, c'est relatif à chaque personne. Par rapport à ta force, à toi. La Bible dit tu vas aimer Dieu de toute ta force. Si ta force vaut 50 et la force d'un tel vaut 100, toi, toute ta force, ce que tu peux apporter, c'est 50. Tu n'as pas à te comparer à l'autre. C'est pourquoi le dimanche dernier, j'ai insisté là-dessus. Que aimer Dieu, décider de servir Dieu, ne doit pas se faire par esprit de comparaison. Dieu ne nous compare pas aux autres. Tout est une fonction de ce qu'il nous a donné à nous. Alléluia. Donc c'est tout ce que tu as que tu donnes. C'est tout ce que tu sais comme étant bien. La Bible dit, celui qui sait faire le bien, qui ne le fait pas, il pêche. Amen. Que ça signifie dans la pratique? Tu as ta fille de 2 ans. Elle fait un dessin pour sa maman ou son papa, chérie. Elle s'applique, elle dessine. Mais elle a 2 ans. Toi, tu sais, le nez sera quelque part ici. Les oreilles même vont venir sur les pieds, tout ça. Et puis ta fille vient te voir. Maman, papa, c'est pour toi. Comment tu réagis? Qu'est-ce que tu dis? Pourtant, c'est pas beau. Toi, tu sais que le dessin n'est pas beau. C'est un joli dessin. Mais tu dis, c'est beau. Voilà. Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu regardes? C'est l'effort à son âge. Ce qu'elle fait pour toi. Ça te touche. C'est ta fille. Mais tu es un homme d'un certain âge, une femme d'un certain âge. Et tu as un enfant qui a 40 ans. Lui, comme il a vu ce que tu as fait pour ta fille de 2 ans, lui aussi, il vient. Le même dessin. 40 ans. Il travaille 1 million de salaire par mois. 2 millions, et puis il vient. Maman. Tu sais combien je t'aime? C'est pour toi, papa. Quand tu vas regarder le dessin, à quoi tu vas penser? Ce sont tes enfants. C'est le même dessin. Mais qu'est-ce que tu vas dire au gars de 40 ans? En fait, tu vas dire, est-ce qu'il est normal? Tu peux même penser que il est ton ennemi. Que ça, est-ce que c'est pas pour, est-ce qu'il ne fait pas mon mal? Je veux dire, on peut te faire un cadeau. Mais si tu sais ce que la personne possède comme capacité, et qu'elle réagit comme quelqu'un qui n'a pas sa capacité, son cadeau devient intriguant. Quelqu'un me suit? Alléluia! Alléluia! Amen! Amen! C'est pourquoi dans l'amour pour Dieu, on ne peut pas se comparer aux autres. Dieu connaît l'âge de chacun. Il sait ce que tu peux faire. Ce commandement dont je parle, ce principe dont je parle, c'est vous qui le connaissez. C'est Dieu et vous. Vous seul savez. Ce qu'une personne qui a beaucoup d'argent peut faire d'excellent et ce que quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent peut faire d'excellent, ce sera toujours deux choses différentes. Mais avec ce que tu as, pour développer ton amour pour Dieu, tu dois faire ce que tu as de meilleur. Être excellent, c'est donner ce qu'on a de meilleur à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne rien faire avec négligence. Offrir à Dieu ce qu'on a de meilleur. La qualité. Notre plus grande qualité, notre meilleure qualité. Cela doit caractériser ce que tu fais pour Dieu. Si je décide de chanter, je décide de prêcher, je dois remarquer, juste pour lui, faire ce qu'il y a d'excellent. Je ne dois pas faire avec négligence. Quand c'est pour aller, par exemple, à ton travail, tu es toujours ponctuel. Quand c'est pour des rendez-vous, tu gagnes, tu es toujours à l'heure. Quand il s'agit de Dieu, tu prends ton temps. Ce n'est pas excellent. Celui qui aime Dieu sans qu'on l'ait contraint. Quand il s'agit de Dieu, il déploie beaucoup plus d'énergie que lorsqu'il s'agit des hommes. Pour Dieu, il est beaucoup plus ponctuel. Beaucoup de gens sont très réglo dans leur vie. Mais pour Dieu, non. Dieu, il regarde le cœur. Il regarde le cœur. Il regarde le cœur. Donc ton enfant de 40 ans et puis ton enfant de 2 ans, il dit, papa, ce qui est important, c'est mon cœur. Je t'aime. Alléluia. Alléluia. Si tu es avec moi, si tu es avec moi. Amen, amen, amen. Et comme j'ai dit tantôt, ça nous permet de considérer le détail, rechercher la qualité. Malachi chapitre 1, verset 8. Il est dit, quand vous offrez, Malachi 1, 8, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Verset 13 de Malachi 1. Il a dit, et vous dites, voilà quel ennui, et vous soufflez dessus, dit l'Éternel. Vous dit l'Éternel des armées, et vous apportez ce qui a été déchiré, et la bête boiteuse et la malade. C'est ainsi que vous apportez l'offrande. Agréerai-je cela de votre main? Dit l'Éternel. Verset 14. Et maudit est celui qui trompe et qui a dans son troupeau un mâle et fait un vœu et sacrifie au Seigneur ce qui est corrompu. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est terrible parmi les nations. Alléluia. Alléluia. Vous devez cultiver l'excellence dans tout ce que vous faites pour Dieu. Si vous savez faire ce qui est bien, n'apportez jamais à Dieu ce qui est vous savez ce que vous ne pourrez pas apporter à votre roi. Dans tout, même dans votre danse. L'offrande à Dieu, le service à Dieu, c'est tout. J'ai vu par exemple une vidéo il y a quelques années, vous avez dû la voir. Il y a un frère qui voulait venir faire une offrande. Mais de la façon dont il a dansé pour faire son offrande. Peut-être que l'argent même qu'il a mis dans le panier n'est pas énorme. Mais je suppose qu'il a dû se dire, moi avant dans le monde, ce qui m'a vendu, c'était les danses. Je dansais peut-être pour les chanteurs. Mais pour Dieu, je vais faire tout ce que je sais faire. Donc il a dansé sérieusement. J'ai dit, il danse même. Peut-être pour d'autres personnes, c'est rien. Mais Dieu, ça a de la valeur. Parce qu'il regarde son enfant, il voit qu'il n'a pas d'argent. Mais ce qu'il a, il le fait à Dieu. Et comme c'est pour Dieu, il le fait bien. Il danse mieux, il donne le meilleur de lui-même. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas beaucoup de ces choses. Mais quand je te sers, je te sers avec sérieux, avec diligence. Tout ce que je le fais de manière excellente. Et c'est l'esprit, en fait, qui nous conduit dans la conception, dans l'esprit de vase d'honneur. Faire les choses pour Dieu. Je dis, ouais, j'arrive dans un endroit, c'est bien. Avec les écrans, on peut voir les textes, on peut voir ceci. On va le faire parce que c'est excellent. Et même là, je vais regarder si les frères savent, hein, si c'est mal entretenu. Je vais parler. La façon dont on range le matériel. Je dis, quand vous rangez, rangez pour Dieu. Même soulever une chaise, soulevez-la pour Dieu. Quand vous êtes assis dans la présence de Dieu, on peut être assis comme ça, quelqu'un, tu peux manger ton chewing-gum et puis prendre le chewing-gum collé sous la chaise. Frère, c'est la chaise de Dieu. Est-ce que c'est propre? Est-ce que toi-même, ça dit, si tu rentres dans la maison, tu es arrivé dans la maison du roi, je ne sais pas de quel endroit, tu es sûr que tu peux manger un chewing-gum? Et puis coller ça sur son fauteuil. Tu sais faire bien les choses. Tu sais faire bien les choses. Ce n'est pas une affaire d'argent, ce n'est pas une affaire de quantité. C'est une affaire de toute ta force et de toute ta pensée. Quand toi-même tu penses là, est-ce que ça veut dire? Quand, dans toute ta pensée, qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un qu'on considère? Et quand tu analyses dans tes pensées, tu dis, pour Dieu, voilà comment je dois être. Tout croyant qui se comporte de la sorte, qui donne le meilleur de lui-même, qui est excellent pour Dieu, voir grandir son amour pour Dieu. Il ouvre un chemin et Dieu commence. C'est comme si la voie est large, elle s'ouvre davantage. Alléluia. Et en fonction de sa croissance spirituelle, de la croissance de ses moyens, de tout ce qu'il obtient, il améliore chaque fois son niveau d'excellence. Chaque fois. Et ce qui va se produire, c'est que lorsque vous allez le faire pour Dieu, cela va se manifester dans tout ce que vous faites dans votre vie. Sur le plan professionnel, vous allez devenir excellent. Dans tous les aspects de votre vie, même dans votre propre chambre. Je me souviens qu'un jour, Dieu est venu me reprendre sévèrement quand j'étais étudiant à Yamoussoukro. Le désordre total dans ma chambre. Un pantalon par-ci, une chemise par-là, les cahiers par-ci et tout ça. et je rentrais dans cette chambre désordonnée pour adorer l'Éternel. Je suis tombé malade à cause de cela. Oui, oui, à cause du désordre. J'ai eu un hoquet là qui ne finissait pas. J'avais dit, bizarre. Je ne savais pas. J'ai dit, mais Dieu, pourquoi suis-je malade? Il dit, parce que tu ne me respectes pas. J'ai dit, en quoi? Il dit, regarde ta chambre. Tu peux accueillir ton directeur d'école ici? Je dis, non, mais Dieu, c'est mon cœur qui est ordonné. Mon cœur te connaît. C'est dans mon cœur que tu viens. Dieu sait tout. C'est-à-dire, j'ai compris que ma chambre doit l'honorer. Ça paraît simple, c'est même pas l'église, mes amis. J'ai vu que tout appartenait à Dieu. Et donc même la chaise qu'il m'a donnée dans ma chambre est à lui. Donc j'ai commencé à entretenir tout ce qu'il me donnait. J'ai compris même qu'une chemise est un don de Dieu. Donc la chemise là, je dois l'entretenir parce que Dieu s'est déployé pour m'offrir une chemise. Et quand j'ai commencé à faire ça, Dieu m'a donné beaucoup de chemises. Alléluia. Lorsque j'ai commencé à être excellent avec les meubles à la maison, parce que dans mon esprit, c'est de lui. Tout vient de lui. J'ai eu du respect. L'excellence touche ces choses. Si vous considérez une personne, lorsqu'elle vous fait un don, vous savez l'entretenir. Si la personne rentre chez vous et qu'elle voit que vous l'avez jeté à la poubelle ou bien vous l'entretenez mal, elle sera frustrée. Même si elle ne vous dit rien. Dieu dit, si tout vient de moi, c'est que la chemise que tu portes vient de moi aussi. Il dit oui. Alors, comment tu l'entretiens? Comment? Alléluia. Alléluia. Ah, il y en a qui sont surpris. Ah, même Dieu est là-bas aussi. Mon frère, Dieu est partout. Et c'est une éducation que vous vous donnez. Je vous assure, lorsque vous la prenez, elle commence à marquer votre vie, votre manière de travailler. Et au niveau professionnel, les gens vont sentir une démarcation. Vous savez, dans les banques et dans les structures mondaines, l'excellence est faite pour séduire les autres. Pas, c'est pas profond. Vous êtes rentré dans une banque, banque bien entretenue, décorée. Ce n'est pas parce qu'ils ont envie de forcément décorer. Hein. C'est pour attirer les clients. On vous accueille bien, pas parce qu'on vous aime, mais c'est parce qu'on aime votre argent. Vous voyez? Donc, ça, c'est pas l'excellence divine. C'est pas l'excellence qui est faite pour Dieu. C'est quelque chose qui est intéressé. Ça, c'est l'adoration de maman. Mais l'adoration de Dieu est votre relation de tous les temps avec Dieu. Et parce que vous vous éduquez dans ce comportement, vous considérez que le boulot que vous avez, il est de Dieu. C'est quoi l'excellence? Je serai à l'heure. Pour Dieu. Quand j'arrive, ce n'est pas à cause de mon patron. Je ne suis pas ponctuel parce qu'il est là ou il n'est pas là. Quand je vais au travail, je me travaille pour Dieu. Et je le fais bien parce que je considère que, même si on dit petit poste de comptable, m'a été offert par l'Éternel. Et je le prends avec sérieux. C'est comme ça que Dieu va vous élever. La Bible dit, si tu vois un homme qui est habile dans son ouvrage, il va s'asseoir toujours auprès des rois. Dieu élève toujours quelqu'un qui est excellent. Pas excellent pour plaire aux hommes, mais excellent pour plaire à Dieu. Quand vous êtes excellent pour plaire à Dieu, vous n'avez pas une façade excellente et puis chez vous à la maison, c'est sale. Chez vous à la maison comme à l'extérieur, tout est excellent. Parce que vous savez que Dieu est partout à la fois. Alléluia. Vous faites ce que vous pouvez, mais vous vous améliorez au fur et à mesure. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et le dernier point, pour qu'on finisse aujourd'hui, donc la troisième décision que je dois prendre pour progresser dans mon amour pour Dieu. La troisième décision, c'est je dois choisir, ou le troisième choix, je dois choisir de faire des sacrifices pour Dieu. Troisième choix, choisissez de faire des sacrifices pour Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Troisième choix, choisissez de faire des sacrifices pour Dieu. Donc on a compris ce que c'était que l'excellence. C'est ce qu'on a vu avec Abel. Son offrande a touché Dieu. La Bible dit que même à la mort d'Abel, son offrande parlait encore. On dit quoi que mort, son offrande parle toujours. Lorsque vous faites quelque chose pour Dieu avec amour, il y a la vie dans ce que vous faites. Et vos offrandes et vos actions parleront toujours pour vous. Parce que vous avez fait selon l'Esprit de Dieu. Amen. Dieu va s'en souvenir. Alléluia. Mais la Bible dit en parlant de l'offrande de Abel, qu'il a apporté les meilleurs morceaux, mais il n'a pas dit seulement les meilleurs morceaux, il a dit les premiers-nés de son troupeau. Dis avec moi, premier-né. Premier-né. La notion de premier-né fait ressortir le sacrifice. Pourquoi le sacrifice? Parce que le sacrifice signifie un peu la mort. Quand on parle de sacrifice, il y a la mort là-dedans. Dis-moi la mort. Bon, personne n'aime la mort. Mais pourquoi on utilise le mot sacrifice? Vous savez qu'on utilise, quand je suis en train de parler de sacrifice, je ne dis pas d'aller tuer des bœufs et des moutons. Hein. On est pasteur à Dieu, je dis, on n'a qu'à faire des sacrifices. Ma femme, allons acheter des moutons, on fait un sacrifice. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient ainsi. On tuait un animal. Mais il y a tout le temps la notion de mort dans le sacrifice, de perdre quelque chose, d'amener à la mort une chose qui était censée vivre et apporter un certain plaisir par sa vie. On la tue, on l'abandonne. Et puis, elle était apportée en holocauste, c'est-à-dire on la brûlait entièrement. Donc, celui qui faisait l'offrande, il perdait tout. Dans le Nouveau Testament, on ne sacrifie plus les animaux. Mais la notion de sacrifice demeure, c'est-à-dire cette notion de perdre quelque chose, d'abandonner quelque chose. Alléluia. On parle de sacrifice lorsqu'il y a un risque. Ça veut dire, l'acte que je pose là est risqué pour moi. Ça veut dire, si je le fais, je me mets en danger. Si tu fais une action pour Dieu qui ne te met pas encore en danger, ce n'est pas un sacrifice. Vous me suivez? Il y a des offrandes que tu fais financièrement qui ne te mettent même pas en danger. Toute offrande qui ne te met pas en danger n'est pas encore un sacrifice. Mais ce que je vais vous expliquer, on ne fait pas les sacrifices tout le temps. On les fait quelques fois. Pour voir son amour se développer pour Dieu, il faut de temps en temps, dans votre vie, faire des sacrifices, prendre des risques pour Dieu. Amen. Amen. Il y a une offrande que tu fais, comme on dit, qui te met en ballotage. C'est-à-dire, tu dis, ah, c'est quoi la suite maintenant? Tu ne le fais pas tout le temps, mais des moments marqués de ta vie, tu dis, au-delà, je fais un sacrifice. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ce que Abel a fait. En offrant à Dieu les premiers-nés de son troupeau, il se mettait en danger. Ça veut dire, ses brebis venaient de mettre bas. Et les premiers bébés que les brebis ont eu, il les offre. Ça veut dire, il se met en risque. Et si les brebis vieilles meurent, tu n'as plus de cheptel. Mais il est venu la réalité, non, Dieu est grand. Ce n'est pas seulement les meilleurs morceaux, hein, mais je vais prendre un risque. Je vais sacrifier les premiers nés. Je vais les donner à Dieu. Mais Abel, qu'est-ce qui te dit que tes brebis vont mettre bas encore? Et si elles mettent plus bas, tu fais comment? Donc tu n'auras plus de brebis comme ça. Je le fais pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Comme je dis, ça ne le fait pas tout le temps. Mais il y a des moments dans votre vie, vous devez apprendre. Vous devez faire pour Dieu des choses. Lorsque les gens vous regardent, on dit, vous êtes fous. Ça vous expose à la honte. Mais vous les faites quand même. Et ce n'est pas parce que je suis en train de prêcher, vous allez forcément décider. Vous savez, ça vient de manière délibérée. Aucun ange ne va venir te demander de faire un sacrifice. Si je viens en tant que ton pasteur, hier j'ai reçu un songe. Que fais un sacrifice et toute ta vie va changer en bénédiction. Ce que tu vas faire, c'est pas un sacrifice. Voyez, tu as déjà vu même le résultat. Je fais ça. On dit, je fais ça, j'ai 10 millions. Si c'est ce genre de sacrifice-là, on les fait tous. On va en faire des placements financiers. Quelque part, ce sont des sacrifices. Mais au moins, on sait un peu le résultat. Avec Dieu, on sait le résultat. On sait que Dieu ne peut pas nous abandonner. Le sacrifice est un moment, est une position que vous prenez de temps en temps pour dire à Dieu que vous savez que tout vient de lui et que vous ne dépendez que de lui. Vous rappelez des sacrifices de temps à autre pour montrer à Dieu que vous ne dépendez que de lui et que votre soutien, votre force ne vient pas des choses que vous possédez. Tout ça, c'est à lui. Vous pouvez le lui donner à un moment donné et vous êtes convaincu qu'il est capable de prendre soin de vous. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Exercez-vous au sacrifice.
Exercez-vous. T'entends, fâche-toi. Tu vois les gens qui ont des difficultés. Tu dis, Seigneur, je sacrifie tous mes vêtements. On fait toujours des offrandes de vêtements. Mais sans que cela nous mette en danger. Ça, ce sont des offrandes. Mais ce que j'appelle sacrifice, c'est quand il y a un danger. C'est ce que tu as fait, tu ne sais pas comment tu vas t'habiller demain. Ça, c'est un sacrifice. Faire une offrande, c'est une très bonne chose. Il faut toujours faire des offrandes. Il faut aider les plus démunis. Mais faire des sacrifices pour Dieu, il faut les faire aussi de temps en temps. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. C'est ce que David fait en 2 Samuel chapitre 24. Il est dit, Aravna regarda, 2 Samuel 24, verset 20. Il est dit, Aravna regarda, et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers mon serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Aravna dit à David, que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi et Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Verset 24, mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 sicles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel. Et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Amen. Alléluia. On voit ici le roi David à qui Dieu a demandé de faire une offrande. Il arrive que quelquefois que le Seigneur vous demande de faire une offrande. Dieu peut vous donner une directive. Je n'ai pas dit que les anges, que le Saint-Esprit ne peut pas vous donner un conseil. Ça arrive. Ou tu entends simplement, tu entends la voix de Dieu qui te dit, cette chose-là, offre-la. Ça arrive. Ce dont je parle, c'est le fait de se lever volontairement pour Dieu et d'agir comme ça de temps à autre. Amen. Ici, Dieu a demandé à David de faire une offrande. David, donc, décide de la faire. Il va sur le lieu où il devait faire l'offrande et il rencontre le propriétaire qui s'appelle Aravna. Aravna lui demande, mon roi, que voulez-vous? David dit, non, je veux acheter ton terrain et je veux faire une offrande à Dieu. Aravna dit, non, mon roi, je vous offre tout. Prenez le terrain, les bœufs même que vous voulez sacrifier, je vous les donne. Et vous voulez du bois, je vous le donne aussi. Prenez mes chariots, tout ça, prenez. Le plus important semblait être l'offrande. Mais David dit, non, Aravna. Je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne me coûte rien. Dieu ne lui avait pas demandé, David, offre-moi quelque chose qui te coûte quelque chose. Dieu a dit simplement, fais une offrande. Amen. J'ai vu quelquefois à l'église des frères qui prennent l'offrande chez leurs camarades pour mettre dans le panier. Mais ce n'est pas ton offrande. Il dit, frère, le panier arrive. Passe-moi 1000 francs, je fais l'offrande. Donc le gars aussi te donne 1000 francs et toi tu mets dans le panier. Mais ce n'est pas ton offrande, c'est son offrande. Toujours. On dit, mon gars, tu n'as pas que le panier arrive, le panier. Il faut que je fasse une offrande à Dieu. Donne-moi 1000 francs, donne-moi 1000 francs. Et puis après, tu ne peux pas lui rembourser en plus. Tant que tu ne l'as pas remboursé, c'est son offrande. Quand tu vas lui rendre l'argent, alors ça sera ton offrande. Parce que là, c'est lui qui a offert. Il a offert son offrande et il a offert ton offrande à toi, mais c'est son offrande. Amen. David dit, je n'offrirai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte rien. C'est une école, c'est une éducation que vous devez avoir. Donc, aimer Dieu, avoir des sentiments continuels pour Dieu, naît après un certain nombre de décisions. C'est un nombre de choix. Le choix délibéré de servir Dieu. Le choix délibéré de faire les choses de Dieu avec excellence. Quand il s'agit de Dieu, je fais ce qu'il y a de meilleur en moi. Je ne compare pas mon meilleur au meilleur des autres. Ce que moi je sais faire de meilleur, c'est ce que je fais. Ça peut être inférieur à ce que les autres savent faire. Mais moi je fais ce qu'il y a d'excellent en moi. Dieu me voit, moi aussi je me connais. Dieu sait ce qu'il m'a donné. Alléluia. C'est faire
avec excellence. Je dois faire de la qualité. Si je fais, je sers Dieu, ça doit être de qualité. Si je décide de balayer le temple, je dois bien balayer. Je dois rentrer dans les coins noirs que personne ne regarde et je vais le faire pour Dieu. Si je travaille de la sorte, ça va influencer ma vie de tous les jours. Amen. Troisième chose qu'on a dite, troisième décision que je dois prendre, je dois décider de faire des choses qui me coûtent pour Dieu. Je n'apporte pas à Dieu ce qui n'a pas de valeur pour moi. Dans le sacrifice, il y a la notion d'importance. Je n'offre pas à Dieu ce qui n'a pas de valeur pour moi. Et c'est ce que David a dit. Dans le sacrifice, donc, on a dit trois choses. Il y a la notion de risque, de mise en danger. Et il y a aussi la notion d'importance. Alléluia. Alléluia. L'importance, la valeur, c'est vous qui la donnez aux choses que vous possédez. Une chose a de la valeur à vos yeux. N'est-ce pas? Un homme, j'écoutais un homme de Dieu qui disait, il dit par exemple, il a retrouvé la photo de son grand-père ou de son papa, une photo qui date de combien d'années? Il l'a vue, il dit vraiment, ça c'est un de ses trésors. Mais il dit, quelqu'un d'autre la verra, il va vouloir même la déchirer. Il dit, c'est quelle vieille photo ça? Donc, la valeur d'une chose n'est pas universelle. Si vous prenez 10 000 francs CFA, vous amenez ça aux États-Unis, ils vont prendre pour attacher le pain. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a aucune valeur à leurs yeux. Donc, la valeur est à vos yeux. Alléluia. Amen. Et c'est par rapport à ces choses-là que vous regardez pour offrir à Dieu des choses qui ont de la valeur pour vous. Si vous avez, vous voulez faire une offrande financière, matérielle, si vous réfléchissez, vous voyez que c'est ce que vous voulez donner, vous pouvez perdre cela sans que cela vous fasse mal, ça vous fasse souffrir. Pourquoi c'est ce que vous voulez donner à Dieu? On le dit encore d'une autre façon, la valeur de l'offrande ne se mesure pas à ce que vous mettez dans le panier, mais à ce que vous gardez sur vous-même. Alléluia. C'est pourquoi la femme qui a donné les deux pièces d'argent, les deux petites pièces, a donné plus que tout le monde. Jésus a dit ceci, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc son offrande était la plus grande offrande. Alléluia. 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 Alors si vous agissez de la sorte, avant ces trois décisions, il nous en manque deux pour terminer sur l'amour de Dieu. Vous allez voir, vous travaillez ainsi, vous allez voir, les choses vont commencer à bouger dans votre vie. Vous allez voir les sentiments, le cheminement de Dieu pour agir dans votre vie sera encore plus grand. La connexion sera encore plus grande. Le roi Salomon, en un roi, chapitre 4, s'est levé un jour. Je finis avec cela. Il est venu, il est parti offrir à Dieu 1000 bœufs en holocauste. 1000, mes amis, ce n'est pas petit. Ils ont dû sacrifier les moutons et les bœufs toute la journée. Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas d'abattoir. Donc, on devait aller les couteaux. Allez, tue-le. On dit, mais pourquoi le roi fait ça? Un bœuf, deux, trois, quatre, cinq. Ils sont arrivés à 100. Ce n'est pas fini. Ils ont fait 10 fois 100 bœufs. C'est énorme. Personne ne lui avait demandé. Aucun ange ne lui était apparu pour demander Salomon fait un tel sacrifice. La Bible dit, lorsqu'il l'a fait, cette même nuit, Dieu lui est apparu. Alléluia. Vous pouvez mettre le passage à l'écran pour qu'il voit. Cette même nuit, Dieu lui a apparu. Hein, roi, voilà. Le roi se rendit à Gabaon pour sacrifier car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Verset 5 à Gabaon. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon a montré qu'il aimait Dieu. La Bible dit, Salomon a demandé à Dieu, je veux juste la sagesse. Dieu dit, je vais te donner une sagesse. Comme la route est bien large, la sagesse que Dieu a donnée à Salomon lui a permis d'atteindre un tel niveau de grâce, de faveur. Mais c'était juste une action sans contrainte, volontairement. Personne ne lui a dit, c'est pas un ange qui l'a paru. Salomon, lève-toi cette nuit, va voir l'Éternel, sacrifie 1000 bœufs. Après 1000 bœufs, tu obtiens ceci, tu obtiens cela. Non, c'est volontairement. Vous devez faire des choix, vous devez prendre des décisions et faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Amen. Amen, amen. Et Salomon l'a fait. Et Dieu lui a donné une grande sagesse. Une femme aussi l'a faite. Elle apportait un parfum de nard d'un grand prix. Les apôtres disent qu'on aurait pu le vendre 300 deniers. Je dis la dernière fois, pratiquement un salaire, le salaire d'une année. C'est-à-dire une année de salaire. La femme prend une année de salaire. Elle va acheter un parfum. Vous voyez la valeur du parfum? Imagine ton salaire. Pendant un an. Regardez, il y a un parfum qui coûte ça. Tu vas l'acheter. Et tu viens. Et regarde Jésus. Elle ne lui offre même pas. Elle trouve que Jésus est trop grand. Elle casse le parfum. Elle le verse à ses pieds. Elle prend ses cheveux. Les cheveux, c'est la gloire d'une femme. Et elle essuie les pieds de Jésus. Ceux qui ne comprenaient pas le principe de sacrifice et d'offrande, surtout Judas, il était là, il dit, mais ça c'est n'importe quoi. C'est quoi ça? Jésus, arrête là. Cet argent-là, on donne ça aux pauvres. 300 deniers. Quand même. Donc aujourd'hui, on peut imaginer, c'est 5 millions. 5 millions comme ça, tu jettes par terre. Non. Mais si tu offrais ça à Jésus, on peut comprendre. Tu n'offres même pas le parfum. Elle a versé. Tout simplement parce qu'elle trouvait que Jésus est tellement grand que il doit même. Ça veut dire, le parfum là n'est pas digne de parfumer Jésus. Tout ce que le parfum peut faire, à la limite, c'est de laver ses pieds. Parce que les grands rois sur la terre utilisent ce parfum là. Pour se parfumer. Les Césars, c'est ce qu'ils prenaient. Elle dit, non, Jésus, ce n'est pas un César. Il est plus grand. Alléluia. Et elle les prend. Elle dit, Seigneur, ça c'est pour tes pieds. Les cheveux, c'est la gloire d'une femme. Je suis tes chaussures avec, je suis tes pieds avec ça. En ce moment, il n'y avait pas de bitume. Il n'y avait pas de marbre comme ça. Donc Jésus, là, il marchait dans la poussière. La femme a pris ses cheveux pour enlever la poussière sur les pieds de Jésus. Mes soeurs, imaginez tout l'argent que vous mettez dans vos cheveux. Est-ce que vous pouvez prendre ça? Parce que vos cheveux coûtent cher. Évaluez le montant de la valeur annuelle de vos cheveux. Ma soeur, combien de fois de défrisage dans l'année? Un défrisage, ça fait combien? Ça dépend, hein? Mais un défrisage en moyenne, 2000. Bon, sans le produit, maintenant il faut le produit. En tout cas, bon, les soeurs, vous savez, vous cumulez ça toute une année. Et vous voyez tout ce. Et la femme entretient ses cheveux parce que c'est précieux pour elle. C'est important pour elle. Ça manifeste sa personne, tout ça. Et la femme, elle prend ses cheveux et puis elle essuie les pieds de Jésus, ça. Hein, tu as fini de bien traiter tes cheveux comme ça chez la meilleure coiffeuse d'Abidjan. Et on dit, voilà Jésus. Tiens mes cheveux, Seigneur. Voilà, Jésus. Alléluia. Lorsque Jésus a vu ça, Jésus, c'est comme un choc qu'on lui a donné. Il dit, quoi? Mes amis, elle a fait ça sans révélation. Et Jésus a dit, en même temps, il dit, elle n'a même pas fait de confession. Hein. Il dit, tous tes péchés sont pardonnés. Sans repentance. D'habitude, il faut se repentir. Alléluia. D'habitude, quand tu vois Dieu, il faut te... Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi. La Bible dit la femme était une pécheresse. Ça veut dire qu'elle a fait beaucoup de péchés sur la terre. Elle dit, confesse-toi, ma soeur, confesse-toi. Jésus dit, je n'ai pas besoin de confession. Il dit, tous tes péchés te sont pardonnés. Les apôtres disent, mais on est choqués. Il dit, mes amis, écoutez-moi. Aussi longtemps qu'on parlera de moi, on parlera de cette femme. Cette femme, alléluia, a inscrit son nom dans les Écritures. Quelques heures avant, elle était pécheresse. En moins de quelques secondes. Le type d'amour qu'elle a manifesté à Dieu. Et ça, c'est quoi? Excellence, la qualité du parfum. Sacrifice, l'abandon d'une année de gain. Sacrifice, excellence, parce que Dieu est grand. Et lorsque Dieu voit ça, il dit, tant qu'on parlera de moi, on parlera aussi de toi. Aujourd'hui, une femme qu'on aurait dû jeter en prison pour son caractère pécheresse est aujourd'hui élevée. Et on parle d'elle. Mes amis, et mon Dieu. Alléluia. Prenez des bonnes décisions. Faites les bons choix. Et vous allez voir combien votre communion avec Dieu, combien le ciel sera ouvert pour vous, combien les choses vont se passer entre vous et votre Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors nous voulons prier l'Éternel, nous voulons prier Dieu. Nous sommes en train d'apprendre à aimer Dieu, nous sommes en train d'apprendre à servir Dieu. Et nous avons vu aujourd'hui encore que aimer Dieu se manifeste par certains choix que nous faisons. Certains choix que je fais en décidant qu'une chose sera bien faite où elle sera faite avec négligence, c'est-à-dire je n'y prête pas attention. Faire quelque chose avec négligence, c'est ne pas prêter attention à ce qu'on fait. C'est un choix. Fais le choix, lorsqu'il s'agit de Dieu, de faire les choses bien. Prends cette décision dans ta vie. Lorsqu'il s'agit de la maison de Dieu, prends la décision de bien faire les choses. Cette décision va changer même ta vie et ton comportement de tous les jours. Lorsqu'il s'agit de Dieu, prends la décision, fais le choix d'apporter le plus souvent des choses qui ont de la valeur pour toi, des choses importantes pour toi. Fais le choix, de faire volontairement, sans contrainte, sans obligation aucune, des sacrifices. J'ai appris l'histoire d'un homme qui lui avait décidé de ne plus donner la dîme à Dieu, un dixième de son salaire, mais de donner 90%. Et lui gardait la plus petite partie. Je ne te dis pas de faire de même. La Bible dit tu vas aimer de toute ta force, de toutes tes capacités, de toutes tes pensées. Ce sont tes pensées à toi. Lorsque tu te regardes de l'intérieur, lorsque tu regardes ce que tu fais, ce que tu es, qu'est-ce qu'il y a de meilleur en toi? Si tu sais ce qui est beau, si tu sais ce qui est bien fait, pourquoi veux-tu donner à Dieu ce qui n'est pas bien fait? Ou bien ce qui est passable? Ou encore ce qui est médiocre? Si tu sais faire de bonnes choses, offre à Dieu ce qu'il y a de meilleur. Applique-toi. Travaille les choses dans le détail. Celles qu'on ne voit même pas, celles que les hommes ne voient pas, fais-le avec, fais-le bien. Les choses que personne ne verra pour te féliciter, fais-les bien. Parce qu'en fait, tu ne le fais pas pour les hommes, mais c'est pour Dieu que tu le fais. Merci Seigneur pour ta grâce divine. Merci pour ta parole. Merci parce que tu donnes à cette parole de vivre en nous et tu nous donnes la force de l'appliquer dans le nom de Jésus. Amen.
Merci d'avoir suivi ce message et n'oubliez pas de mettre en pratique les conseils que vous avez reçus du Seigneur. You came from heaven.